De la réalité à la fiction, nous vous proposons une présentation du film Illégal du réalisateur Olivier Massé-Depasse. Olivier Massé-Depasse, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez de signer un film choc, Illégal.
Oui, en effet. Un film sur l'histoire, le combat d'une mère, sans papier, d'origine russe, qui vit avec son fils en Belgique clandestinement depuis 8 ans, et puis au détour d'un contrôle d'identité, est incarcéré dans un centre de rétention administrative, tandis que son fils est resté au dehors.
Pour ceux qui n'ont pas une idée précise de la situation des gens clandestins, des gens en centre de rétention, je pense que c'est très parlant.
Ce que j'ai essayé de faire, évidemment, c'est bon, d'abord avant tout un film de fiction, dans la veine d'illustres comme Costa Gavras, où c'est-à-dire, à travers un film, eh bien, on dénonce quelque chose. J'ai voulu montrer la réalité de ces centres de rétention et surtout les dérives qui en découlent. Je ne dis pas que ça se passe tous les jours comme ça, mais je dis que ce qu'on voit dans le film s'est passé déjà de trop nombreuses fois et qui donne des signaux d'alerte en disant attention, on dérape. Alors est-ce que c'est le système? Voilà, je voulais faire une analyse et de montrer ce qui se passe derrière ces grilles qu'on ne voit jamais, puisque c'est des zones interdites. Donc ça, c'est la spécificité du film. C'est que pour une des rares fois, on va voir toute la procédure et ce qui se passe à l'intérieur de ces centres, voire sur le tarmac des aéroports.
Pour réaliser ce film, donc, qui a été fait en Belgique, on peut imaginer que le même scénario pour être écrit en France. Vous avez bénéficié d'experts, de spécialistes, de gens qui travaillent directement auprès des populations qui sont en situation illégale.
Mais quand on fait un film pareil, évidemment, il ne faut pas dire trop de bêtises. En tout cas, si on veut dénoncer quelque chose. Alors, le film est une réalité subjective, mais basée sur une enquête d'une année, avec un journaliste d'un quotidien Le Soir qui est assez connu en Belgique, un journaliste spécialiste en la matière, et un juriste de la Ligue des droits de l'homme belge, qui était là plutôt pour vérifier. C'est parce que mon souci, c'était quand même d'être le plus crédible possible. Et donc, pour être le plus crédible et le plus juste aussi, pas faire bêtement un film gauchiste, c'était important d'arriver à rentrer dans ces centres. On y est rentré plusieurs fois, de longues heures, qui nous ont permis d'avoir une bonne idée, une bonne imprégnation émotionnelle, de l'ambiance, de tout, et une bonne idée des procédures, du quotidien, de la vie, comment elle se passe à l'intérieur. Et la chose en plus qui était importante, c'était d'arriver à interviewer des gardiennes, des policiers de transfert, enfin d'avoir le son de cloche des gens qui travaillent pour l'État et qui acceptent ce genre de travail. Pour montrer, pas bêtement les gentils et les méchants, mais un peu mettre au jour ce système qui, pour moi, pousse à la dérive des êtres humains, qu'ils soient d'une barrière, d'un côté ou de l'autre de la barrière. Alors évidemment, je ne vais jamais être d'accord avec ce qui se passe ou excuser les brutes qui se trouvent dans mon film, mais de montrer que pour la plupart, comme pour les sans-papiers, pour ceux qui travaillent derrière ces grilles aussi, ça peut être aussi des hommes comme tout le monde, quoi.
Il y a d'ailleurs une des personnes qui travaille dans ce centre de rétention qui, à un moment donné, jette l'éponge.
Oui, il y a cette la gardienne Liv qui est inspirée de plusieurs. Je dirais que c'est pas un film inspiré de faits réels, bien qu'on pourrait le dire, mais si c'est un film tissé de faits réels. C'est-à-dire que chaque personnage est un mix de plusieurs personnages que j'ai rencontrés, de plusieurs histoires. Et cette gardienne est issue de plusieurs personnages de gardiennes qui, à un certain moment, ben, se retrouvent face à elle et doivent faire un choix.
Donc vous avez fait un choix de traiter le sujet avec un aspect subjectif très important avec la caméra à l'épaule qui filme de très près.
L'intérêt du cinéma, pour moi, par rapport à un documentaire, enfin la spécificité du cinéma, la possibilité, c'est la subjectivité. C'est-à-dire de pouvoir rentrer dans la peau d'un personnage, de s'identifier au plus fort, dans une logique de presque jeu de rôle, c'est-à-dire, et donc de ressentir ce qu'il ressent de sa peur, ses angoisses, etc. Et c'était important pour moi, vu le sujet du film aussi, de rester avec cette mère et que on vive son combat au plus proche, au plus serré avec elle. Donc j'ai tout axé sur ce point de vue, autant dans le film. Enfin, je veux dire, quand elle téléphone, on ne voit pas les gens qui sont de l'autre côté à l'autre bout du fil. On reste toujours, toujours, toujours avec elle, pour justement saisir au plus proche de ses réactions, de ses sentiments, et essayer pour la comprendre le plus profondément.
Ça crée aussi une tension permanente dans le film.
Oui, c'est-à-dire le travail de la caméra à épaule, moi je suis en tant que réalisateur à la recherche d'une réalisation sensorielle, de l'organique, de la vibration qui fait que ben, qu'on sent un peu plus la chair, l'émotion, etc. Et donc j'utilise cette caméra à épaule dans ce sens. Ici, les deux axes, c'était vraiment de ben, la coller au plus proche, d'essayer de faire ressentir sa tension, ses angoisses, enfin toute sa palette d'émotions, et aussi avec des plans vus de loin, comme des plans plus volés, comme si on l'observait, comme si quelqu'un d'autre l'observait, pour justement faire ressentir sa parano. Et dans un jeu avec le spectateur, c'est-à-dire d'être à la fois collé à elle, et puis de par moments, par des instants assez vifs, assez furtifs, reprendre son œil d'observateur aussi.
En fait, il y a une double proximité avec le spectateur. La première, c'est les plans rapprochés, on va dire. La deuxième, c'est aussi la possibilité que le spectateur européen, d'une manière générale, s'identifie au personnage qui est incarné par quelqu'un de type européen.
Oui, c'était un autre point de vue. Après, je me base sur la réalité, mais sur la réalité, il y a une forte communauté russophone en Belgique. Mais le plus important pour moi, comme l'idée du film, c'est un peu attention à ne pas respecter l'autre, on ne se respecte plus soi-même. Je voulais un effet miroir. Je voulais que Tania ressemble le plus possible à nous. Il fallait, contrairement à tout, un peu tous les films sur le sujet, c'est-à-dire il fallait une immigrée blanche, le moins de différences raciales et culturelles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'ai préféré faire jouer cette Russe, justement pour qu'il n'y ait pas cette différence culturelle, par une actrice européenne. Parce que, au-delà du défi de l'actrice de jouer une Russe, ben son côté européen va de toute façon transparaître. Et comme moi, je crois beaucoup à l'effet du cinéma sur l'inconscient du spectateur, bien, malgré que je pense que l'actrice a relevé le défi avec brio, il va ressentir son inconscient, en tout cas par le langage non verbal, son côté européen. Et donc, va être aimantée normalement. Je ne dis pas que je réussis, je dis simplement que c'est une tentative de réalisateur, ou en tout cas un point de vue. Et aussi parce que moi, je suis issu de la génération qui a été fascinée par le New Hollywood, par ces acteurs de composition américains, et que c'est très important de m'approprier ce sujet à travers un vrai film de fiction aussi.
À un moment du film, on est un peu troublé, c'est-à-dire on se pose la question, pourquoi elle est là et moi je suis ici, quoi. On pourrait éventuellement considérer que dans d'autres moments, dans d'autres circonstances, les rôles pourraient être alternés.
Et moi, je me suis dit à un certain moment, mais quand j'avais une vingtaine d'années, on s'engueule avec ses parents, on part aux États-Unis, on a envie de vivre là-bas, et puis on n'arrive pas à avoir sa green card ou quoi que ce soit, j'aurais pu me retrouver dans cette même situation. Voilà, alors que je ne suis pas un criminel, je trouvais que c'était important de montrer la réalité de ces gens parce que ces gens sont comme nous.
Montrer à des gens, oui, on peut se demander peut-être montrer à qui. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas voir et qui sont parfois proches de ces centres. On a connu ça aussi dans d'autres époques troublées, peut-être encore plus.
Oui, après, bon, il faut pas faire d'amalgame, mais c'est pour moi les centres fermés, après l'année d'enquête que j'ai faite, ce sont des centres qui ne marchent pas. La première fois que je vais dans un centre fermé, je finis dans le bureau de la directrice, qui est au téléphone avec un ancien résident, comme ils disent, un Polonais, qui a été rapatrié 15 jours avant et qui a oublié son téléphone portable. Et elle lui dit, ah oui, je me rappelle bien de vous, ben donnez-moi une adresse en Pologne, je vais vous le renvoyer. Et elle dit, non, madame, je vais passer le chercher. Et ça, des anecdotes comme ça, j'en ai des milliers. On peut faire un dictionnaire. Donc, ça ne marche pas, en tout cas dans ce que ça devrait. Dans sa fonction, c'est-à-dire de réguler, de maîtriser, ça ne rime à rien, sauf à torturer des gens, pour la grande majorité des innocents sans papier, qui, pour beaucoup, ont déjà une vie ici, et n'ont pas le choix de retourner, que ce soit de manière économique, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons politiques, enfin. Voilà, alors que d'un autre côté, on ne met pas d'argent contre les mafias, qui sont elles le vrai problème, enfin un des vrais problèmes, parce que ces mafias exploitent ces mêmes gens de façon honteuse et les font rentrer avec des visas pour beaucoup falsifiés ou enfin des trafics de visas. Et là, c'est vraiment des gros gros problèmes.
Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un militant de base ou un militant actif. Par contre, ce film, vous êtes senti quelque part un peu obligé, ou du moins vous avez senti la nécessité de le réaliser, peut-être parce que vous êtes assez proche d'un lieu comme celui-là.
Oui, c'est le. Bah, ça n'est pas essentiel, mais ça joue. Mais moi, au départ, je ne connaissais pas plus que les autres personnes, que les autres gens sur les centres de rétention. Et puis, c'est au détour d'un sujet télé, à un certain moment, mais on voit certaines choses, on entrevoit certaines choses, on entend des phrases comme prison pour innocents, prison pour enfants. Et j'ai ressenti un malaise. Et celui-là, je ne l'ai pas oublié, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut dire j'y pense et puis j'oublie, mais là, je ne l'ai pas oublié. Il m'a taraudé. Et un des éléments, c'est vrai que que ça se passe près de chez moi, a attisé ma curiosité et mon obsession, qui était de découvrir ce qui se passait derrière ces. Réellement, quoi. En tant que citoyen, j'avais besoin de savoir à quoi m'en tenir. Ce que j'acceptais, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ces centres de rétention, c'est l'impôt qu'ils payent, donc c'est nous qui le payons, c'est le contribuable. Donc en étant passif, on est de toute façon actif. Donc je pense qu'il était important de montrer ce que l'État fait pour nous.
Pour supporter le film, sa distribution, son succès, bon, est-ce que vous comptez là par contre sur les militants actifs, peut-être que vous avez rencontré d'ailleurs?
Évidemment que les associations ont vu le film, etc. Si en plus le film peut leur servir d'outil, pourquoi pas, tant mieux. C'est aussi, c'est une des possibilités du film. Moi, j'ai témoigné. Je dirais pas que c'est, je dirais que plus qu'un film engagé, c'est un film indigné. J'ai voulu. C'était important de se documenter, mais je suis pas documentariste. Moi, avant tout, ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire d'un combat, celui d'une mère, pour retrouver son fils. C'est ça qui, pour moi, est universel. Et je pense que quand on voit le film, on est d'abord ému, touché par cette histoire de mère. Ça, c'était l'histoire à raconter. Après, sur l'ennemi, c'est ce centre fermé, c'est ce Moloch qu'elle rentre dans ce centre qui l'avale et qui va tout faire pour la broyer psychologiquement. Et donc elle va devoir se battre. Mais je pense que ce film est plus poignant que. Je dirais même qu'il est instructif, mais il est d'abord poignant, je pense.
Est-ce que certains pays, ou pour certains pays, l'urgence de montrer ce film, ou de débattre autour de ce film et de réagir, l'urgence est plus grande que d'autres? Parce que dans ce film, par exemple, on parle d'enfants qui sont dans ces centres. Certains pays ont abandonné l'idée que ces enfants restent dans les centres, mais on peut imaginer que tout soit possible en plus ou en moins. Il y a une marge toujours qui dépend aussi politiquement des situations.
Je prends le cas de la Belgique. L'avantage, c'est que, Dieu merci, depuis bon un an, il n'y a plus d'enfants dans les centres de rétention. Mais cette décision n'est pas figée dans le marbre. Elle est suspendue à un fil, et si demain, ce qui dans mon pays n'est pas impossible, aujourd'hui, un ministre un petit peu plus dur, un petit peu plus extrême coupe ce fil, tout le monde rentre en centre fermé, en centre de rétention. Moi, je dis simplement, il y a une chose qui est évidente et qui est simple, enfermer des gens qui n'ont commis aucun crime, il y a déjà une antinomie. Voilà, ces centres ne marchent pas, c'est juste une construction politique qui sont là pour quand l'électeur effrayé parce qu'il voit trop de couleurs dans sa rue, eh bien, se dit, mon Dieu Seigneur, il faut faire quelque chose. Mais non, attendez, regardez, on fait des choses. On a des centres de rétention, on régule. Voilà, aujourd'hui en France, quand j'entends, si je ne me trompe, que l'action contre les Roms, la plupart des Français n'étaient pas contre, c'était plutôt une chose positive. Hein. On sent que Sarkozy n'est pas conspué non plus par les Français, j'ai pas l'impression. Moi que je me trompe, mais voilà, c'est des choses où il faut se rendre compte que par la désinformation, enfin c'est toujours les mêmes systèmes quoi, c'est toujours la même chose. Et comme les débuts de siècle ont tendance à se répéter, c'est vrai qu'il faut faire attention, je pense.
Olivier Massé-Depasse, ce film, si on le met en perspective avec ce que vous avez fait avant ou ce que vous allez faire, les prochains projets, comment il se situe?
Il se situe comme quelque chose de révélateur. C'est vrai que mes deux courts-métrages et mon premier long étaient à la fois différents et il y a une continuité. C'est-à-dire que tous mes films racontent l'histoire d'une femme déterminée, d'un caractère fort, trempé, prête à tout. Une femme courage et l'autre obsession, c'est l'enfermement. Alors ici, la particularité par rapport à Illégal, c'est que eh bien, je me suis tourné vers les problèmes des autres. Et il faut avouer qu'un film comme Illégal est, en tout cas, a été beaucoup plus enrichissant, par exemple, que mon premier. C'est-à-dire, mon premier, j'ai appris sur mon métier. Alors celui-ci aussi, mais en plus, il y a toute la période de recherche, de connaissance, enfin de découvrir des choses, de s'informer. Et donc c'est clair que faire ce genre de film, ben, on a l'impression après d'en sortir un peu moins con, quoi. Maintenant, c'est vrai que mon souhait de réalisateur serait d'aller plus vers le thriller politique dans la mouvance des Anglo-Saxons. De ce qui se fait ou de ce que nous avons connu à travers des gens comme Costa-Gavras. Et voilà, ça serait bien.
Est-ce que c'est facile, vous allez me dire que ce n'est jamais facile, mais de distribuer ce type de film, est-ce qu'en France c'est plus facile qu'en Belgique, ou est-ce qu'on peut avoir une idée de l'écho que vous avez des sociétés de distribution?
Mais quand on fait un film, aujourd'hui, sans acteurs connus, un film qui n'est pas fait pour rassurer. C'est toujours plus compliqué. Maintenant, je dois avouer que j'ai eu de la chance et que je trouve le film très bien distribué. Il sort sur 80 copies en France. Enfin, je veux dire, les cinémas, il y a le cinéma ARC, mais il y a l'UGC ou les Gaumont ou MK2. Donc, il y a une bonne visibilité. Maintenant, le problème, c'est que. C'est le sujet, est-ce que le spectateur va rejeter, va dire oh là là, on va parler des sans-papiers encore une fois. Je veux dire, on vit le bon exemple. Là, il y a des hommes et des dieux qui font un carton, et tant mieux, et on est content, et c'est un très beau film, mais c'est un film rassurant. Or, la loi qui est un film moins rassurant se plante. Enfin, ce plante est un échec commercial. Donc, ce sont des films. Quand on fait un film pas rassurant, on se dit, est-ce que les gens vont passer au-dessus pour voir un peu et pour partager? Parce que si on fait des films, ben, c'est pour partager, évidemment.
Est-ce qu'on peut dire que finalement le public est moins, je vais pas dire courageux, mais moins militant, moins engagé que les gens qui sont dans les réseaux des salles, les directeurs, ceux qui programment?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que le public des années 70 était un petit peu plus. Il y avait une ouverture, une curiosité qui me semble manquer un peu aujourd'hui. Parce que le mainstream est abrutissant et rassure, et rassure tellement que on ne veut plus aller chercher ailleurs. Et surtout. Le mainstream pousse les gens à s'endormir. Je pense qu'il faut se réveiller. Et il faut de tous les cinémas. Il faut tous les cinémas. Le mainstream cherche l'homogénéité et ça, c'est terrible.
Olivier Massé-Depasse, merci.
Merci beaucoup.
C'était Olivier Massé-Depasse, réalisateur indigné, à propos de son film Illégal, prix SACD à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2010, une émission proposée par René Lavergne.